Cruelle énigme. Chaque soir, quand j'ai manqué le dernier train pour Maison Lafitte, et Dieu sait si cette aventure m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je vais dormir en un petit pied-à-terre que j'ai à Paris. Mon pied-à-terre, j'aime mieux vous le dire tout de suite, est une simple chambre portant le numéro 80 et 6 en l'hôtel des Trois Hémisphères, rue des Victimes. Très propre et parfaitement tenu, cet établissement se recommande aux personnes seules, aux familles de passage à Paris, ou à celles qui, y résidant, sont dénuées de meubles. Sous un aspect grognon et rébarbatif, le patron, M. Stéphanie, cache un cœur d'or. La patronne est la plus accorte hôtelière du royaume et la plus joyeuse. Et puis, il y a souvent dans le bureau une dame qui s'appelle Marie, et qui est très gentille. Elle a été un peu souffrante ces jours-ci, mais elle va tout à fait mieux maintenant, je vous remercie. L'hôtel des Trois Hémisphères a cela de bon, qu'il est international, cosmopolite et même polyglotte. C'est depuis que j'y habite que je commence à croire à la géographie, car jusqu'à présent, dois-je l'avouer, la géographie m'avait paru de la belle blague. En cette hostellerie, les nations les plus chimériques semblent prendre à tâche de se donner rendez-vous. Et c'est par les corridors une confusion de jargon dont la tour de l'ingénieur Babel, pourtant si pittoresque, ne donnait qu'une faible idée. Le mois dernier, un clown, né natif des îles Féroé, rencontra dans l'escalier une jeune arménienne d'une grande beauté. Elle mettait tant de grâce à porter ses 4 sous de lait dans la boîte de fer blanc que l'insulaire en devint éperdument amoureux. Pour avoir le consentement, on télégraphia au père de la jeune fille qui voyageait en Thuringe et à la mère qui ne restait pas loin du royaume de Siam. Heureusement que le fiancé n'avait jamais connu ses parents, car on se demande où on aurait été les chercher, ceux-là. Le mariage s'accomplit dernièrement à la mairie du 18e. Monsieur Bain, qui était à cette époque le maire et le père de son arrondissement, profita de la circonstance pour envoyer une petite allocution sur l'union des peuples, déclarant qu'il était résolument décidé à garder une attitude pacifique, aussi bien avec les Batignolles qu'avec la Chapelle et Ménilmontant. J'ai dit plus haut que ma chambre porte le numéro 80. Elle est donc voisine du 81, et depuis quelques jours, le 81 était vacant. Un soir, en rentrant, je constatais que, de nouveau, j'avais un voisin, ou plutôt une voisine. Ma voisine était-elle jolie? Je l'ignorais. Mais ce que je pouvais affirmer, c'est qu'elle chantait adorablement. Les cloisons de l'hôtel sont composées, je crois, de simples pelures d'oignons. Elle devait être jeune, car le timbre de sa voix était d'une fraîcheur délicieuse, avec quelque chose dans les notes graves d'étrange et de profondément troublant. Ce qu'elle chantait, c'était une simple et vieille mélodie américaine, comme il en est de si exquise. Bientôt, la chanson prit fin, et une voix d'homme se fit entendre. « Bravo, Miss Ellen, vous changez à ravir, et vous m'avez causé le plus vif plaisir. Et vous, maître Sem, n'allez-vous pas nous dire une chanson de votre pays ?» Une grosse voix enrouée répondit en patois négro-américain « Si ça peut vous faire plaisir, monsieur Georges !» Et le vieux nègre, car évidemment c'était un vieux nègre, entonna une burlesque chanson dont il accompagnait le refrain en dansant la gigue, à la grande joie d'une petite fille qui gelait de perçants éclats de rire. « À votre tour, Doddy, fit l'homme, dites-nous une de ces belles fables que vous dites si bien. » Et la petite Doddy récita une belle fable sur un rythme si précipité que je ne puis en saisir que de vagues bribes. « C'est très joli, reprit l'homme. Comme vous avez été bien gentille, je vais vous jouer un petit air de guitare, après quoi nous ferons tous un beau dodo. » L'homme me charma avec sa guitare. À mon gré, il s'arrêta trop tôt. Et la chambre voisine tomba dans le silence le plus absolu. « Comment, me disais-je, stupéfait, ils vont passer la nuit tous les 4 dans cette petite chambre ?» Et je cherchais à me figurer leur installation. Miss Ellen couchée avec Georges, On a improvisé un lit à la petite Dodie et Sem s'est étendu sur le parquet. Les vieux nègres n'en ont vu bien d'autres. Elena, quelle jolie voix tout de même. Et je m'endormis, la tête pleine d'Hélène. Le lendemain, je fus réveillé par un bruit endiablé. C'était Maître Sem qui se dégourdissait les jambes en exécutant une gigue nationale. Ce divertissement fut suivi d'une petite chanson de Dodie, d'une adorable romance de Miss Hélène et d'un solo de piston véritablement magistral. Tout à coup, une voix monta de la cour. « Eh bien, Georges, êtes-vous prêt? Je vous attends. Voilà, je brosse mon chapeau et je suis à vous. » Effectivement, la minute d'après, Georges sortait. Je l'examinais par l'entrebâillement de ma porte. C'était un grand garçon, rasé de près, convenablement vêtu, un gentleman, tout à fait. Dans la chambre, tout s'était tu. J'avais beau prêter l'oreille, je n'entendais rien. Ils se sont endormis, pensais-je. Pourtant, ce diable de Sem semblait bien éveillé. Quel drôle de gens! Il était 9 heures à peu près. J'attendis. Les minutes passèrent, et les quarts d'heure, et les heures. Toujours pas un mouvement. Il allait être midi. Ce silence devenait inquiétant. Une idée me vint. Je tirai un coup de revolver dans ma chambre et j'écoutais. Pas un cri, pas un murmure, pas une réflexion de mes voisins. Alors, j'eus sérieusement peur. J'allais frapper à leur porte. Open the door, Sam! Miss Hélène! Dodie! Open the door! Rien ne bougeait. Plus de doute, ils étaient tous morts. Assassinés par Georges, peut-être. Ou asphyxiés. Je voulus regarder par le trou de la serrure. La clé était sur la porte. Je n'osais pas entrer. Comme un fou, je me précipitai au bureau de l'hôtel. « Madame Stéphanie! » fis-je d'une voix que j'essayais de rendre indifférente. « Qui demeure à côté de moi? »« Au 81, ben, c'était un Américain, Monsieur George Houston. »« Et que fait-il? »« Ben, il est ventriloque.